Vous écoutez, on lit pour vous.
Des groupes de soutien de proches veulent une loi plus souple sur l'hospitalisation forcée. Un texte de Florence Morin-Martel, publié le 9 janvier 2026 dans Le Devoir. Un regroupement de plus de 50 associations qui soutiennent des familles touchées par des troubles de santé mentale réclame un assouplissement de la loi P38 qui encadre l'hospitalisation forcée afin qu'elle permette des interventions plus précoces en situation de crise. L'appel survient après la diffusion jeudi du premier épisode de la série documentaire « Je suis là » des animateurs Monique Néron et Paul Arcan sur les ondes de Télé-Québec. On y suit le quotidien fait d'espoir et d'épuisement de proches aidants qui accompagnent un être cher aux prises avec de graves problèmes de santé mentale. Le premier épisode démontre l'importance du rôle des proches pour inciter la personne à aller chercher des soins, mais aussi souvent leur impuissance. Souligne René Cloutier, directeur général de l'organisme CAP Santé Mentale, qui regroupe 53 associations. Il affirme entendre régulièrement des témoignages de familles de partout au Québec qui disent ne pas être écoutées ni soutenues. À l'heure actuelle, la loi P38 permet l'hospitalisation d'une personne contre son gré lorsque son état mental présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Plusieurs familles souhaitent toutefois que le critère de dangerosité immédiate soit levé afin que cette mesure puisse s'appliquer aussi aux personnes dont l'état mental, sans être immédiatement dangereux, laisse craindre des préjudices sérieux, soutient M. Cloutier. Ce dont on parle ici, ce sont des gens qui ont perdu leur autocritique. Et donc, l'assouplissement à la loi ferait en sorte que, lorsqu'une personne perd le contact avec la réalité, on ait des moyens pour intervenir et lui redonner rapidement sa capacité à s'autodéterminer, poursuit-il. Des demandes depuis 25 ans. Ces changements à la loi adoptée en 1997 sont demandés depuis 25 ans, souligne René Cloutier. Lorsqu'une personne refuse d'avoir des soins, parce que c'est la maladie qui parle, les intervenants ne peuvent pas agir et la retournent chez elle. C'est le phénomène des portes tournantes. Selon lui, l'état des personnes qui ne reçoivent pas de soins s'aggrave avec le temps et certaines en viennent à poser des gestes irréparables. Il faut qu'on change les pratiques pour pouvoir intervenir beaucoup plus en prévention, souligne-t-il. Une réforme annoncée, mais décriée. Vendredi, la ministre de la Santé et ministre responsable des services sociaux, Sonia Bélanger, a indiqué toujours vouloir déposer prochainement un projet de loi afin de moderniser la loi P38. Notre société a évolué et notre cadre législatif doit mieux refléter les réalités d'aujourd'hui, a écrit son cabinet. Le directeur général de CAP Santé Mentale espère que le dépôt du texte législatif se fera rapidement au retour des parlementaires en février à l'Assemblée nationale. En décembre, l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice a cependant recommandé au gouvernement de ne pas assouplir les critères de la loi P38, rappelant que l'hospitalisation forcée doit demeurer une mesure d'exception en raison de l'atteinte aux droits fondamentaux qu'elle implique. Dans son rapport, l'Institut conclut que les difficultés observées tiennent moins à la loi elle-même qu'au manque de services et de ressources consacrées au soutien social et à l'accompagnement en santé mentale. L'hospitalisation forcée devrait donc être utilisée en dernier recours lorsque toutes les autres options ont échoué ou sont inapplicables, estime-t-il. L'organisme Action Autonomie, qui milite pour la défense des droits des personnes ayant bénéficié de services en santé mentale, s'oppose également à l'assouplissement de la loi. Quand les gens sont en crise, ils vivent déjà de grandes difficultés. Le fait de leur ajouter des contraintes supplémentaires de privation de liberté, on pense que ça ne les aide pas, souligne Jean-François Plouffe, porte-parole de l'organisation. Selon lui, il serait préférable de mettre davantage de ressources et d'aides à la disposition des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale. Il estime également que les conditions d'hospitalisation en psychiatrie doivent être améliorées afin que les patients soient moins réfractaires aux soins. Parce que, pour beaucoup de gens, c'est une expérience extrêmement pénible et traumatisante, ajoute-t-il. C'était « Des groupes de soutien de proches veulent une loi plus souple pour l'hospitalisation forcée ». Un texte de Florence Morin-Martel, publié le 9 janvier 2026 dans Le Devoir. prévention du suicide, gare aux outils numériques et à l'IA, un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. Les personnes qui ont des pensées suicidaires vont, dans une même recherche sur le web, tenter de trouver de l'aide et parallèlement essayer de trouver des moyens de s'enlever la vie. Ainsi, les outils numériques et l'intelligence artificielle, IA, présentent à la fois des atouts et des dangers en matière de prévention du suicide. Quand on est rendu à chercher de l'aide sur Internet, plutôt que dans son entourage, c'est soit qu'on n'a pas vraiment d'accès à des ressources dans notre entourage, ou soit que notre situation s'est détériorée au point qu'on se tourne vers Internet pour chercher de l'aide, expose Louis-Philippe Côté, chercheur affilié au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, crise. Il a expliqué comment les technologies numériques peuvent repérer et intervenir en matière de prévention du suicide dans le cadre de la 2e édition de la Journée annuelle en santé mentale numérique, qui s'est tenue lundi et qui est organisée par le Centre d'expertise en technologie de l'information en santé mentale, dépendance et itinérance, CETI, SMDI, du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Céline Bardon, professeure de psychologie à l'UQAM, qui a également donné une conférence lors de l'événement, précise que le sentiment de vouloir vivre et mourir en même temps ne s'exprime pas seulement sur le web. Dans la vraie vie, on le voit aussi beaucoup. Il y a des gens qui vont faire une tentative de suicide et appeler du secours en même temps. Les deux sont présents en même temps. Et la job de l'intervention, c'est de faire en sorte que le désir de vivre devienne de plus en plus important dans les pensées et les émotions de la personne, de façon à ce que la personne s'engage vers des ressources et vers quelque chose pour l'aider à aller mieux, explique-t-elle en entrevue. Les informations sur le suicide, telles que des méthodes pour s'enlever la vie, sont qualifiées par des chercheurs de contenu pro-suicide. Ce genre d'information contribue à augmenter le risque suicidaire, a souligné lors de sa conférence M. Côté, également co-directeur scientifique intérimaire au CETI-SMDI. Il n'est pas clair si l'accès à ce contenu est simple. Certaines études indiquent que trouver ce genre d'information est facile, mais d'autres études disent le contraire. L'idée qu'il faut garder en tête, c'est que « qui veut trouver, va trouver », prévient M. Côté. L'exemple des jeux vidéo. Madame Bardon, également directrice associée aux crises, estime qu'il y a un très beau potentiel pour rendre les interventions plus efficaces à condition de s'en servir correctement. Quand sur les réseaux, les gens trouvent de l'information sur des méthodes de suicide, c'est une mauvaise utilisation. Quand on utilise des outils d'autogestion pour pallier au manque de ressources et qu'on abandonne des gens à se gérer tout seul avec des ressources en ligne, c'est une mauvaise utilisation, déplore-t-elle. L'un des bons usages des technologies numériques est dans l'implication des intervenants sur les clavardages de jeux vidéo. Sur certaines plateformes populaires, comme Twitch, des intervenants vont publier dans différents canaux de clavardage pour faire savoir aux utilisateurs, surtout des jeunes, qu'ils sont disponibles et qu'ils vont interagir avec eux. Au début, on pensait que développer des outils numériques, ça allait être parfait pour rejoindre les hommes, étant donné que souvent les hommes ont plus peur de se montrer vulnérables, de se confier, etc. On se disait que le sentiment d'anonymat qu'allait donner l'écran allait aider à surmonter cet obstacle. Mais dans la réalité, on se rend compte que les grands consommateurs des outils d'intervention numérique
C'est beaucoup les femmes, pointe M. Côté. Le rôle des hébergeurs web. Pour aider une personne en crise, il faut d'abord repérer les risques suicidaires. Il faut ensuite faire une évaluation, puis appliquer un plan de traitement. Au cours de leur vie, la plupart des gens vont vivre plus d'une période avec des idées suicidaires. Il est donc important d'avoir une gestion d'après-crise et de travailler à réduire les récurrences. Selon Cécile Bardon, l'étape du triage, qui se fait notamment par des algorithmes décisionnels sur des sites comme suicide.ca, est efficace. Cela permet de placer une personne en priorité si son état le requiert. Le repérage, c'est quelque chose sur lequel on commence à être pas mal, mais le repérage, ce n'est pas tout. Il faut qu'il soit suivi d'une vraie évaluation des besoins et une vraie prise en charge. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore développé des outils généralisés pour faire ces étapes, détaille la chercheuse. Elle assure toutefois qu'il y a du potentiel. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont développés en ce moment pour analyser les composantes non verbales du langage. Par exemple, tout ce qui est en lien avec l'énergie dans la voix, l'hésitation dans les mots, des choses comme ça qui peuvent être associées à des états affectifs de dépression et de l'affaissement émotionnel. Mais ça, ce n'est pas des outils qu'on est prêt à généraliser du tout, mais des développements comme ça peuvent être intéressants, spécifie Mme Bardon. Pour M. Côté, il faut réduire l'accès aux méthodes de suicide pour pouvoir agir en prévention. Si on l'applique aux technologies numériques, ça se traduit par plusieurs actions. La première, c'est toutes les législations qui entourent l'interdiction de faire de la promotion du suicide sur Internet. Il faut que les États votent des lois pour interdire la promotion du suicide sur Internet, dit-il. Or, cela peut être compliqué, notamment parce que les sites web sont hébergés dans de nombreux pays et il n'est pas possible de faire appliquer les lois d'un pays partout. M. Côté croit cependant que si les hébergeurs de sites web évaluaient que d'avoir du contenu pro-suicide avait un prix trop élevé à payer, par exemple en termes de réputation, il serait capable de faire changer les choses. Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles en tout temps au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553, par texto 53-53-53, ou par clavardage à suicide.ca. C'était Prévention du suicide, gare aux outils numériques et à l'IA, un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.
Le miracle commercial de MAG. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 16 octobre 2025 dans la presse. Percer le marché des condiments relève de l'exploit. Il s'agit d'un secteur verrouillé par des géants mondiaux. Le succès de MAG prouve qu'avec de la rigueur, une stratégie claire et des employés engagés, l'ingéniosité peut encore déjouer les pronostics. Sans contredit, le marché des condiments reste l'un des plus difficiles à pénétrer dans le monde de l'épicerie. Un univers saturé, dominé par des multinationales bien établies, où chaque point de part de marché se gagne à coups de millions de dollars et d'années d'efforts. Pour espérer croître, ne serait-ce que de 1%, il faut mobiliser un capital considérable, investir massivement en marketing et faire preuve d'une ingéniosité rare en matière d'innovation et de logistique. Dans le ketchup, la domination de Heinz demeure écrasante. Malgré les remous causés par la fermeture de son usine de Leamington, capitale canadienne de la tomate de transformation, et la fameuse guerre du ketchup, Heinz conserve plus de 70 % du marché canadien. Faisant aujourd'hui la fabrication à Montréal, le géant du condiment reste pratiquement intouchable. Le segment de la mayonnaise n'ouvre pas facilement ses portes non plus. Selon Nielsen IQ, Hellmann's, propriété d'Unilever Canada, détient près de 59 % du marché, une domination quasi totale. Pourtant, le secteur continue de croître. Au cours des 12 derniers mois, les ventes de mayonnaise ont progressé de près de 4 % à l'échelle nationale. Or, au sein de cette industrie où les barrières à l'entrée sont presque infranchissables, une entreprise québécoise a réalisé l'improbable. Sa part de marché a bondi de 161 % en un an, atteignant 2 % du marché canadien, tout en ne vendant qu'au Québec, où elle frôle déjà les 7 %, un exploit rarement vu dans l'alimentation. Cette entreprise, c'est le groupe MAG. En un an, elle a doublé son chiffre d'affaires pour atteindre 25 millions de dollars et son nombre d'employés est passé de 50 à 100 personnes. Une croissance exceptionnelle, rendue possible par une stratégie réfléchie, un positionnement opportun et surtout, l'engagement remarquable de ses employés. Derrière chaque pot de mayonnaise MAG, il y a une équipe passionnée, résiliente et fière de contribuer à une réussite québécoise. Avant la pandémie, MAG servait surtout les restaurants, traiteurs et institutions en leur fournissant ses sauces, vinaigrettes et mayonnaise. Quand la crise sanitaire a bouleversé le secteur, l'entreprise a su se réinventer rapidement. Comme plusieurs autres entreprises, elle a pivoté vers le marché du détail, rendant ses produits accessibles en épicerie. Un virage stratégique qui s'est avéré déterminant. Ce succès repose sur plusieurs piliers. Une gestion rigoureuse des coûts, une production locale, une formule simple de qualité et une connexion authentique avec les consommateurs. MAG n'a pas les budgets publicitaires de ses rivales, mais elle mise sur le bouche à oreille, la constance et la fierté du travail bien fait. Entreprise familiale de deuxième génération, fondée par Jacques Magnan en 1989 et dirigée aujourd'hui par son fils Hugo, faisant maintenant partie du groupe MAG pour Magnan, elle est solidement implantée à Saint-Augustin-de-Desmaures et à Lévis, où on fabrique ses produits. L'entreprise 100% québécoise illustre parfaitement comment une PME locale peut s'imposer dans un secteur dominé par les géants mondiaux. En somme, la réussite de MAG témoigne de ce que l'économie agroalimentaire québécoise peut accomplir lorsque le savoir-faire, la stratégie et la mobilisation du personnel se conjuguent à une compréhension fine du contexte de marché. Un véritable miracle économique rendu possible par la vision d'une famille, le talent d'une équipe et la confiance des consommateurs. C'était « Le miracle commercial de MAG », un texte de Sylvain Charlebois, paru le 16 octobre 2025 dans La Presse.
Rendre nos cours d'école plus naturels. Un texte de Emmanuel Jasmin, Mélissa Généreux, Caroline Huy et Francis Livernoche, paru le 22 décembre 2025 dans Le Devoir. Emmanuel Jasmin est ergothérapeute et professeur en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke. Mélissa Généreux est médecin spécialiste en santé publique et professeur en santé communautaire à l'Université de Sherbrooke. Caroline Huy est ergothérapeute et candidate au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université McGill. Et Francis Livernoche est pédiatre social et professeur de pédiatrie à l'Université de Sherbrooke. À la suite des recommandations de l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec sur les buttes de neige dans les cours d'école, la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, a rappelé avec raison l'importance d'un environnement de jeu extérieur adéquat pour les élèves. Or, malheureusement, toutes les écoles ne disposent pas d'un tel environnement. Alors, pourquoi ne pas leur donner un coup de pouce en les soutenant mieux dans l'implantation de mesures probantes, dont la végétalisation des cours d'école? Jouer et bouger en plein air au quotidien. Obligatoire, la récréation permet à l'ensemble des élèves du primaire de jouer dehors quotidiennement les journées d'école, incluant l'hiver, ce qui est encore plus primordial pour celles et ceux qui bougent peu ou pas durant leur temps libre. Ces périodes de jeu contribuent non seulement à accroître leur niveau d'activité physique, mais aussi à améliorer leurs habiletés sociales et leur disponibilité pour les apprentissages en classe. Considérant l'importance de la récréation, le gouvernement du Québec a d'ailleurs exigé en 2019 une augmentation de la durée de ces périodes. Bien qu'il s'agisse d'une excellente mesure, cela ne se traduit pas d'emblée par une récréation de qualité, surtout quand l'environnement scolaire est inadéquat. En outre, le contexte de restrictions budgétaires est susceptible de freiner la réalisation de projets d'aménagement de cours d'école. Néanmoins, pour optimiser les effets positifs de la récréation, une des pistes de solution à considérer est, sans conteste, la végétalisation de ces espaces de jeu. Selon la recherche, les élèves qui bénéficient d'une cour d'école végétalisée en retirent plusieurs avantages, dont une augmentation de l'activité physique, une diminution du stress, une meilleure restauration de l'attention, ainsi qu'une amélioration de la santé globale et des résultats scolaires. Ces espaces naturels peuvent même amener une réduction des symptômes d'inattention et d'hyperactivité chez les élèves. Une baisse des comportements agressifs et de l'intimidation y a aussi été observée. Pourtant, encore aujourd'hui, plusieurs milieux scolaires ne disposent que d'une cour en asphalte ou en béton pour la récréation, bien que ces surfaces dures puissent entraîner des blessures graves. Dans ces espaces, les élèves pratiquent majoritairement des sports compétitifs, comme le basketball ou le ballon chasseur, où dominent souvent les garçons, mais pas uniquement, habiles sur le plan moteur. En revanche, lorsque les jeunes ont la possibilité de jouer dans des espaces naturels, les garçons comme les filles auraient tendance à privilégier ces endroits. Ces espaces permettent aux jeunes d'interagir avec la nature et de socialiser, tout en s'adonnant à une diversité d'activités ludiques et physiques, comme inventer des jeux, se cacher ou grimper. Ainsi, végétaliser les cours d'école donnerait l'occasion à l'ensemble des jeunes de s'amuser et de bouger davantage au quotidien, de surcroît en plein air, ce qui est a fortiori important en ville et dans les milieux défavorisés. En d'autres mots, la végétalisation de ces espaces de jeu contribue à rendre les milieux scolaires et même municipaux, plus sains, équitables et inclusifs. Si de tels espaces sont sans contredit bénéfiques pour les jeunes, force est de reconnaître que ce sont toutes les familles du quartier, voire la communauté, qui en tirent profit. En plus, on le sait, tout le monde n'accède pas facilement ni régulièrement à la nature, malgré ses nombreux bienfaits. Avec les défis que pose la société contemporaine, dont l'omniprésence des écrans, il est d'autant plus nécessaire de rendre ces espaces plus accessibles et présents dans nos vies quotidiennes. Investir dans le mieux-être collectif. L'accès à la nature a des effets positifs non seulement sur les jeunes et leurs familles, mais aussi sur le personnel scolaire, en favorisant sa santé et son bien-être au travail. La végétalisation de cours d'école offre également un cadre propice pour mettre en place des classes en plein air, ce qui est associé à de nombreux bienfaits, dont une augmentation de la motivation et une réduction du stress. Par ailleurs, cette végétalisation permet de lutter contre les îlots de chaleur en zone scolaire, de mieux gérer les eaux pluviales, d'améliorer la qualité de l'air et de promouvoir la biodiversité. Conséquemment, il ne s'agit pas d'une dépense, mais bien d'un investissement dans la santé, l'éducation et l'environnement. Alors que les inégalités ne cessent de se creuser entre les écoles publiques et les écoles privées, et que les changements climatiques menacent l'avenir des jeunes, il est grand temps de prioriser collectivement la qualité de leur milieu de vie, ainsi que leur jeu libre et actif à l'extérieur, en plein air, comme recommandé par la Société canadienne de pédiatrie et Jouons dehors Canada. Et si, à moins d'un an des élections provinciales, on demandait à nos personnes élues, dont la ministre Lebel, d'user de leur pouvoir et de leur gros bon sens, pour rendre nos cours d'école plus naturels, particulièrement là où l'asphalte ou le béton prédomine. C'était « Rendre nos cours d'école plus naturels », un texte de Emmanuel Jasmin, Mélissa Généreux, Caroline Huy et Francis Livernoche, paru le 22 décembre 2025 dans Le Devoir.